Écoutez la fabuleuse histoire de la pauvre petite bohémienne Salim, dont le chevalier de Ribérac devint amoureux, et il l'emmena à cheval au palais de Versailles. En ce château merveilleux, ses grâces étonnèrent la cour de notre bon roi Louis XVI, lui qui s'occupe tant de son peuple comme un père de ses enfants.
Assez de miavreries, bouffon. Ces histoires ne sont plus de saison. Le peuple a faim de pain et de liberté. La révolution gronde et le roi va être ramené à Paris. Abolissons les privilèges et allons récupérer notre bien qu'ils nous volent depuis des siècles.
Du pain pour le peuple!
À bas les aristos!
À bas les aristos
du peuple! À mort!
Oui, du pain!
À bas
les aristos! Nous voulons du pain!
À bas les privilèges!
À bas les aristos! À bas les
aristos!
Du pain pour le peuple!
À mort!
Admirez, mes amis, quelle construction! Quand on pense à toute l'animation qui a pu régner autrefois dans cette cour royale.
Moi, je trouve que c'est très vide, on se croirait dans une ville fantôme.
Oh oui, c'est que le château était habité par des chanoines et des royalistes. Alors, vous pensez bien que l'année dernière, ils ont tous été arrêtés, et même peut-être tués.
Oh, à vous entendre, on pourrait croire que les autorités révolutionnaires ne sont que des bourreaux et des geôliers.
Eh bien, justement, à propos de geôles, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Assemblée a décidé de transformer le château en prison.
Transformer le château en prison? Oh, mais ça n'est pas nouveau. Déjà, sous Louis XV, le donjon était une seconde bastille. Savez-vous que c'est ici que Diderot a été enfermé après sa lettre sur les aveugles où il dénonçait l'aveuglement des ecclésiastiques face à la science?
Oh oui, j'étais au courant, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Rousseau y est venu le visiter. Et l'on dit, dans les milieux informés, que ce serait Diderot qui lui aurait donné l'idée de son discours sur les sciences et les arts, alors qu'il a toujours prétendu que l'inspiration lui était venue alors qu'il se baladait le long des remparts.
Peut-être Diderot a-t-il donné quelques idées, mais vous ne pouvez quand même pas nier son talent littéraire. N'oubliez pas qu'un bon grand nombre de ses écrits sont à l'origine des idées de notre révolution.
Oh, regardez! Quoi donc, ma chérie? Là, ce pauvre bougre effaré qui accourt vers nous.
Ah, messieurs, mademoiselle, partez vite, ils arrivent.
Mais enfin, voyons, monsieur, reprenez-vous. Qui êtes-vous et que nous voulez-vous donc?
Mais qui arrive?
Monsieur, Étru, premier syndic de la mairie de Vincennes. Vous savez sans doute que la commune vient tout juste d'être fondée par la réunification des villages de la Basse-Cour et de la Puissotte.
Oh, quel nom exécrable!
Eh bien alors, ce n'est tout de même pas votre fonction qui vous fait courir et haleter comme ça dans le château.
Non, non, tout serait pour le mieux si je n'avais pas reçu ce message que l'on vient de m'envoyer.
Eh bien, lisez-le!
Voilà. Monsieur, je n'ai que le temps de vous écrire pour vous prévenir des événements graves qui risquent de se dérouler au donjon de Vincennes. Suite à la décision de l'Assemblée nationale du 17 Brumaire de transformer le château en prison d'État, des rassemblements hostiles ont eu lieu dans les faubourgs Saint-Antoine. Un certain Santerre, qui avait été envoyé avec un détachement pour calmer les émeutiers, a pris fait et cause en leur faveur et se dirige actuellement vers le château. Veuillez donc prendre les dispositions nécessaires pour procéder à leur arrestation. Signé la préfecture de police de Paris.
Mais bien, prenez donc avec vous des gardes nationaux et bloquez les abords du château.
Mais s'il n'y a pas de gardes nationaux à Vincennes, et monsieur le maire essaye tant bien que mal de rassembler quelques... Et voilà!
Tous au château de Vincennes!
Oui, nous défendez, nous trahissons!
Rassons les prisons d'État!
Bonne fondation!
À Vincennes, à Vincennes!
La chaise comme la Bastille sera par terre!
Les députés nous trahissent!
Tous à Vincennes!
Rassons le donjon!
Tous à Vincennes!
Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon.
Oh, qu'ils ont l'air vulgaires.
Voilà, monsieur. Que signifie cette agitation?
Citoyen, sans terre. À qui ai-je l'honneur?
Monsieur Gilbert. Puis-je savoir que ce que vous comptez faire avec ce râteau?
Non, c'est une pioche. Eh bien, c'est fort simple. Nous allons démanteler le donjon pour éviter qu'on ne le transforme en geôle.
Vous voulez démolir le château? Oh, comme c'est plaisant. On ne compte pas les conquérants qui ont voulu le détruire. Et pourtant, il est toujours bien debout.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Suivez-moi, vous autres.
Mais vous n'allez tout de même pas laisser faire sans rien leur dire.
J'ai bien essayé de les raisonner, mais ils sont bornés.
Mais ils vont tout démolir. Et monsieur le maire qui ne vient toujours pas.
Quel spectacle dégradant. Bien que depuis 3 siècles, il avait résisté aux guerres et aux intempéries.
Ah, enfin. Voilà, monsieur le maire.
Arrêtez immédiatement. Ce que vous faites est illégal.
Voilà bien l'argument à utiliser en pareille circonstance.
Enfin, allez-vous écouter ce que je vous dis?
Si vous ne voulez pas avoir de problème, je vous conseille de ne pas trop approcher du donjon.
Vous, un officier de la République, comment pouvez-vous profiter de telles menaces?
Je ne voudrais pas vous déranger, mais est-ce bien là toute la troupe que vous avez pu rassembler?
Ah, je ne vous le fais pas dire. Dès que nous avons reçu le message de la préfecture de police, j'ai envoyé un message à l'Assemblée. Pour toute aide, on m'a envoyé ces 2 officiers, seuls et n'ayant pas d'armes à feu. Messieurs Champion et Montauban.
Vous voulez dire qu'on ne peut plus rien faire?
J'ai à tout hasard envoyé une lettre au général Lafayette, mais je crains que ça ne serve pas à grand-chose.
Oh, ils sont en train de détruire l'horloge de Charles V. Quel dommage, c'était une authentique merveille.
Encore une fois, sans terre, arrêtez où nous tirons. Bien, puisque c'est ainsi, je vais devoir commander le feu. À mon commandement, on joue.
Moi, je ne tirerai pas sur des patriotes. Nous aussi, nous ne voulons pas que le château devienne une nouvelle Bastille.
Ciel, une mutinerie. Il ne nous manquait plus que cela. Regardez, voilà 2 cavaliers qui entrent dans la cour.
Mais, c'est le général Lafayette. Enfin.
Oui, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'apporte que de bien faibles renforts.
Général Lafayette, et voici mon aide de camp, M. Desmoc. Alors, que se passe-t-il donc ici? Dès que j'ai reçu votre lettre alarmante, je suis parti voir ce qu'il en était. Nous avons dû éviter le faubourg Saint-Antoine à cause des émeutiers.
C'est bien sûr que c'est ce que je pensais. Ils veulent détruire le château et ma garnison se mutine.
Vous vous êtes bien mal sorti d'affaire, monsieur. Comme commandant de la garde nationale, je prends d'ici vos ordres et j'obéirai. Mais je vous avertis que si vous manquez de fermeté et si vous ne faites pas respecter la loi, je vous dénonce demain à l'Assemblée nationale. Qui ici refuse d'obéir aux ordres? Je vous préviens que je tuerai le premier qui tentera de rejoindre les émeutiers. Reprenez vos rangs! Bien. Desmoc, je vous confie le commandement. Pénétrez dans le donjon et arrêtez les démolisseurs que vous trouverez. Et n'hésitez pas à tirer si vous êtes obligé.
Bien, mon général. En avant!
Félicitations, général. Voilà une affaire rondement menée.
Mais alors maintenant, le château va donc redevenir une prison d'État?
En fait, non. J'ai appris avant de venir ici que l'Assemblée nationale avait abandonné le projet. Le château restera un monument sans aucune utilité.
Ça alors, voilà qui est plaisant. On a donc procédé à des internements et peut-être même à des pendaisons. Alors que l'Assemblée a cédé devant les émeutiers.
Empêcher le peuple de se faire justice pour le faire à sa place, ma chère. Thank you.
Messieurs, il est temps de lever le secret qui entoure le prisonnier que l'on doit nous amener. Il s'agit du duc Louis d'Enghien, accusé d'avoir essayé d'attenter à la vie du premier consul et de lever des troupes de l'autre côté du Rhin contre la République. Le gouverneur Murat m'a informé que d'après les renseignements rassemblés par la police d'État, la culpabilité du duc d'Enghien ne fait aucun doute. Étant donné le danger imminent qui menace la République, la peine capitale semble s'imposer. Cependant, le premier consul souhaite que la culpabilité de l'accusé soit établie par un tribunal militaire.
Mon général, une berline vient d'entrer dans la cour du château.
Voilà notre homme. Colonne Barzancourt, Barrois et Rabé, allez faire préparer la salle du tribunal.
Artificier Godard, prenez avec vous 3 gendarmes. Et veillez à ce que la pause commencée cet après-midi par le citoyen Bonnelet soit terminée au plus tôt.
Que me veut-on ?
Vous jugez.
Sur quoi ?
Parce que vous avez voulu assassiner le premier consul.
Pardon, je ne comprends pas.
Veuillez me suivre dans la salle du tribunal.
Veuillez décliner vos noms, prénoms et qualités.
Louis, Antoine, Henri de Bourbon, duc d'Enghien.
Quel grade occupiez-vous dans l'armée de Condé ?
Commandant de l'avant-garde en 1796.
Et depuis ?
Toujours à l'avant-garde.
Vous êtes accusé d'avoir participé à l'attentat contre le premier consul et d'avoir, en intelligence avec la couronne d'Angleterre, préparé des intrigues avec les royalistes et le grand électeur de Bade contre la République.
Mais c'est faux. Je n'ai jamais servi que sous les ordres de mon grand-père, le prince de Condé. Je ne suis pas à la solde de l'Angleterre, mais à la solde de mon aïeul. Je n'ai reçu de cette puissance qu'un traitement provisoire. Je n'ai que cela pour vivre. Je n'ai de plus entretenu aucune correspondance des gens que l'on m'attribue. Aussi, je demande d'avoir une audience privée avec Bonaparte.
Une audience avec le premier consul ? Rien que cela.
Je supposais qu'à cette heure, le haut état-major a bien d'autres préoccupations que d'avoir des entretiens privés avec les ennemis de la Révolution.
J'estime de par mon rang d'avoir le droit de défendre mon honneur en haut lieu.
Eh bien, défendez-le ici et maintenant. Qu'alliez-vous donc faire de l'autre côté du Rhin ?
J'ai des amis au Bade et en Prusse, auxquels je dois de rendre visite.
Des amis, des comploteurs plutôt, tous d'anciens émigrés ayant fui leur château et n'attendant que la mort du général Bonaparte pour franchir en armes la frontière.
Quels sont les principaux conspirateurs que vous avez rencontrés ?
Je n'ai jamais conspiré, parce que, soldat, je ne comprends que le combat loyal. Je revendique hautement le droit à ma façon de penser. Ma naissance, mes idées, me rendent à jamais ennemi de votre gouvernement. Mais je suis un soldat, et en tant que soldat, je repousse avec énergie d'accusations de complot, d'assassinat, comme une insulte. Moi, avoir voulu faire assassiner le général Bonaparte.
La séance est levée. Le tribunal va se réunir pour délibérer. Garde, reconduisez l'accusé dans sa chambre. Il nous faut maintenant trancher sur la culpabilité de l'accusé. Quelle est votre opinion, général Savary ?
Je crois que la culpabilité de l'accusé est évidente. Tout le prouve. Son arrogance, son attachement à l'ancien régime. Ne s'est-il pas désigné lui-même comme ennemi de la République ?
Oui, je suis d'accord avec le général Savary. Et d'ailleurs, le temps presse. Le danger menace notre pays.
Pour moi, l'accusé est coupable.
N'oublions pas cependant qu'il demande à avoir un entretien avec le premier consul. Nous devrions le prévenir.
Je crois que nous sommes tous d'accord pour déclarer l'accusé coupable. Mais que faites-vous ?
J'écris au premier consul. Il est impossible d'exécuter le jugement avant d'avoir reçu sa réponse.
Attendre la réponse de Bonaparte ? Votre mission est terminée. La mienne commence.
Où me conduisez-vous ? Si c'est vous m'enterrer vivant dans un cachot, j'aime mieux mourir sur le champ.
Monsieur, veuillez me suivre et rappeler tout votre courage.
Y a-t-il quelqu'un qui veuille me rendre un service ? L'un de vous a-t-il une paire de ciseaux ? Faites parvenir ceci à la princesse de Rouen. Y a-t-il un prêtre?
Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, il est impossible d'en faire venir un.
Il est affreux de périr ainsi, aux mains des Français.
Commandez le feu! Adjudant Pellet, commandez le feu!
Citoyens, citoyennes, aujourd'hui, réjouissez-vous. Notre premier consul Bonaparte a été sacré empereur à Notre-Dame. Napoléon vous invite à fêter cet événement. Vive Napoléon! Vive l'empereur! Citoyens, l'Empire a besoin de vous. Napoléon vous conduira sur les chemins de la victoire. Suivez-le. Souvenez-vous de sa glorieuse campagne en Égypte et de ses victoires en Italie. Inscrivez-vous ici et suivez ce nouvel Hannibal.
Le 8e régiment de Cosaques vient de franchir la Marne en direction du fort d'Alfortville.
Ajoutez à cela que les batteries britanniques s'apprêtent à les couvrir.
C'est ridicule. Voilà 2 jours que nous assistons à la bataille sans avoir pu tirer une seule fois. Je comprends pas, nous possédons le plus grand arsenal de la banlieue et personne n'a encore songé à nous attaquer. À croire que le château est devenu invisible.
Au contraire, les alliés savent trop bien l'importance des moyens dont nous disposons. Seulement, il est fort probable que le gouvernement va abdiquer. Paris n'a aucune chance. Dès lors, les alliés n'auront plus qu'à ajouter la remise de l'arsenal de Vincennes sur la liste des réparations. Mieux vaut gagner un arsenal par un jeu d'écriture plutôt qu'en l'attaquant avec le risque de tout faire sauter.
Regardez, un corps d'infanterie autrichien se dirige vers Saint-Mandé. Encore une fois, ils n'ont pas l'air de s'intéresser beaucoup à nous.
Il faut peut-être les prévenir. Ohé, monsieur Boucher, nous sommes là.
Eh bien, puisqu'ils refusent de nous attaquer, rien ne nous empêche de les bombarder. Sergent, commandez les feux de batterie sud.
Canonnier, à mon commandement. Feu! Feu! Feu!
Quelle est la réaction des Autrichiens?
Ils s'écartent.
On continue le bombardement jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée.
Eh bien, les voilà partis. Je pense que nous n'en verrons pas d'autres ennemis de sitôt.
Mon général, 2 cavaliers, un Français et un Autrichien demandent à vous voir.
Faites-les entrer.
Général de brigade de Ménil, je suis délégué auprès de vous par le Parlement et par l'état-major allié pour prendre possession de l'arsenal. Bien. Pour les canons, le colonel Fugger va faire venir un régiment de cavalerie autrichien. Il s'occupera de les faire transiter vers la capitale. Quant aux caisses de munitions, je vous demanderai de les faire sortir dans la cour de la reine pour que le major Berklin vienne les chercher pour le compte de l'armée britannique. Je vous demanderai d'être particulièrement aimable à son égard, c'est un ami.
Oh, mais alors nous lui réserverons une canonnade toute particulière.
Pardon?
Il en sera de même pour toute personne qui approchera du château avec la prétention de s'approprier ce que l'empereur m'a confié.
Mais enfin, monsieur, c'est ridicule. Paris vient de capituler. Vous n'allez tout de même pas continuer à résister
alors que tous les autres corps d'armée ont abandonné le combat.
Inutile d'insister, colonel. Je ne remettrai l'arsenal que sur un ordre écrit de Bonaparte.
Mais l'empereur, enfin, ce monsieur Bonaparte, est sur le point d'abdiquer. Et puis, de toute façon, les empirons sont en notre pouvoir. Nous pouvons toujours faire un blocus de Vincennes ou encore bombarder l'arsenal. Et ce qui ne manquerait pas de provoquer une remarquable explosion.
En effet, nous avons ici près de 50 batteries sans compter le matériel que nous avons ramené hier in extremis de Paris. Cela doit faire environ 1800 milliers de poudres. Venez donc, nous souhaiterons d'entendre. Et si je vous rencontre en l'air, je réponds de ne pas passer sans vous faire une petite blessure.
Votre obstination vous perdra, général. Venez, colonel, nous n'avons plus rien à faire ici.
Bien, nous voilà enfin débarrassés de ce vautour.
Mon général.
Oui, sergent.
Vous pensez réellement que nous devons attendre d'être exterminés par l'armée alliée?
Bien sûr, ne serait-ce que pour répondre à la confiance que nous a fait l'empereur en nous confiant la garde de la place. Mais je ne pense pas qu'ils en viennent à cette extrémité. À mon avis, ils vont plutôt essayer de traiter avec le Parlement de Paris pour que celui-ci m'arrache la forteresse à coups d'arguments plus ou moins convaincants. Ils vont tenter de jouer sur mon devoir d'obéissance envers l'état-major qui vient de capituler ou me faire remettre l'arsenal à un officier français pour qu'il aille aussitôt en perdant à nos alliés. Sur ce point, j'ai pris les précautions d'envoyer un message à Talleyrand. Ce ministre me semble fait pour avoir un bel avenir en politique, quel que soit le régime.
Mon général, un cavalier demande à vous voir.
Encore un ?
Ah, mais c'est peut-être mon messager. Faites-le entrer. Non, ce n'est pas lui. Mais c'est le chef d'état-major de Talleyrand en personne.
Bonjour, mon général. Nous avons reçu votre message. Inutile de vous dire que M. Talleyrand y attache une importance toute particulière. Cependant, vous ignorez encore que Napoléon Bonaparte vient d'abdiquer.
Quoi qu'il advienne, ces ordres tiennent toujours.
Ne vous emportez pas. Les nouvelles sont assez bonnes. Monsieur le ministre a eu une entrevue avec les états-majors alliés, qui se sont montrés conciliants malgré votre obstination. On vous propose même de faire partie du gouvernement provisoire avant que le roi ne revienne à Paris.
Pouvez-vous me certifier que la remise de l'arsenal à ce nouveau gouvernement ne le fera pas passer aux mains des ennemis ?
Je vous promets que les agents royaux veilleront à ce que tout se fasse selon votre désir. Maintenant que le roi va revenir en France, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Autriche n'ont à craindre de nouvelles invasions. Il paraît que l'empereur doit partir en exil sur l'île d'Elbe. De là, il ne risque pas de revenir.
Qui sait ? Enfin, à défaut de l'empereur, nous nous rendrons au roi.
Et ainsi ai-je continué à vivre dans ce 19e siècle qui, de monarchie en empire et d'empire en république, m'a projeté dans une ère nouvelle, celle des grandes villes, des machines, du son et des images qui remplissent notre espace. De cette terre qui m'a vu naître, il ne reste guère que quelques aspects lointains. Aujourd'hui, tout a changé. Les immeubles fleurissent à chaque coin de rue. Les voitures défilent devant moi, et le petit bourg de la Pissotte est devenu une ville importante. Que de toits sur lesquels veiller ? Ah, il est loin le temps de ce village de campagne, et depuis, je demeure intact en regardant les civilisations se succéder. Je ne cesse de vous observer, et fidèle à mon poste, je continuerai à être témoin de votre histoire, celle que vous tracez. Et peut-être verrai-je naître encore de nombreuses générations, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Et cet avenir, c'est vous qui le tenez entre vos mains.